On est aujourd'hui le mardi 2 Av, on est le 9 juillet et le cours sera aujourd'hui pour l'élévation de l'âme de David Kadosh, Maurice Kadosh, Ben Solika, ainsi que pour Nina Hayabat Rachel, ainsi que pour l'élévation de l'âme de Zohar Abad Gracia et pour les guérisons de Myriam Bat Esther et Emmanuel Barourguez Ben Ora. En tous les cas, un petit changement dans le programme annoncé, on est dernière semaine de cours avant pas mal de temps et on est aussi à quelques jours de Tisha B'Av. Donc j'ai décidé de consacrer aujourd'hui et demain sur, et va savoir peut-être jeudi, ça m'étonnerait, en tout cas aujourd'hui et demain sur Bezrat Hashem, à une sorte de cours d'histoire biblique et profonde bien sûr, essayer de réfléchir à nouveau tous ensemble sur ce qui nous arrive, sur les raisons de la destruction des temples, sur les raisons de notre long exil, dernier exil d'Israël, l'exil de Edom qui dure depuis 2000 ans, qui bien sûr est en train de prendre fin, nous en sommes les témoins vivants ici à Jérusalem, mais en tous les cas qui dure malgré tout et qui a duré pendant très très longtemps. On va essayer de réfléchir ensemble sur ces notions, bien sûr en parlant à nouveau de notions qu'on a déjà forcément déjà évoquées, parce que les bases de toute approche de ce sujet sont les mêmes, mais quoi qu'il en soit, l'explication, la manière de le comprendre sera sans doute différente, parce que nous avons changé depuis l'année dernière. Et quoi qu'il en soit, pour pouvoir respecter la nouvelle formule cours et questions, dans la mesure où aujourd'hui on doit arrêter plus ou moins vers 9h30, 10h-20 au maximum, donc on va traiter du sujet jusqu'à 9h15, 9h20, et après on commencera les questions. De toute façon je ne suis pas trop inquiet, puisqu'on a jusqu'à la fin de la semaine, si on voit que ça vaut véritablement la peine de continuer. Donc on va bien sûr traiter essentiellement de notre dernier exil, puisque c'est celui qui nous intéresse. Notre dernier exil, l'exil de Edom, quatrième exil d'Israël, qui, comme je l'ai déjà expliqué des dizaines de fois, est finalement le véritable exil d'Israël. Au point que nos maîtres disent que les trois exils qui ont précédé n'étaient qu'une préparation à celui-là. Les trois exils qui ont précédé, exil de notre nation, après la sortie d'Égypte, l'exil de Babylone qui n'a duré que 70 ans, l'exil de Perses et Grecs qui ont plus ou moins chacun des deux duré 200 ans, donc relativement court par rapport au dernier exil qui dure depuis 2000 ans. En tous les cas, ça ne va pas être le sujet du cours d'expliquer pourquoi les trois premiers n'étaient que la préparation du dernier, mais d'une manière très simple, on peut comprendre aussi pourquoi les trois premiers sont la préparation du dernier, dans la mesure où c'est du dernier que l'on rentre véritablement dans ce qu'on appelle la délivrance finale, le dévoilement du Mashiach, la venue du Messie. Et donc comme la venue du Messie est bien évidemment le but de toute cette première partie d'histoire depuis Adam Harishon, il est clair que la sortie du dernier exil est en soi le but de tout ce qui a existé depuis Adam Harishon, ou surtout depuis la faute de Adam Harishon. Donc automatiquement, puisque nous sommes en train de vivre la partie but, la partie pourquoi de l'histoire, puisque tout va se terminer avec notre délivrance qui est en même temps la fin de cette première partie d'histoire, automatiquement l'exil qui permet le dévoilement de la délivrance finale est donc l'exil le plus important de tous. Donc on va remonter à la source de cet exil, pourquoi sommes-nous en exil, et on va faire ce que l'on a fait déjà lorsqu'on a traité ce sujet. On va essayer de remonter dans l'histoire et de rechercher jusqu'au niveau les plus hauts, là où les sources véritables de ce dernier exil. On va commencer du bas vers le haut, un petit peu comme on a fait dans les cours sur les Gilgulim ou autres, où quand on parle de l'âme, on parle des différents niveaux du bas vers le haut, quand on parle des sphirotes, des attributs divins, du bas vers le haut, ou quand on parle des mondes, du bas vers le haut. Et donc on va essayer ensemble de se rappeler, car la plupart des choses que je vais dire, vous l'avez déjà entendu, on va essayer de se rappeler quelles sont les causes évoquées à ce dernier exil jusqu'à la délivrance finale. Alors du bas vers le haut, la première raison qui est donnée, tout en bas, c'est-à-dire sur la scène de l'histoire, par ceux qui ont vécu l'époque de la destruction du deuxième temple et donc le début de ce quatrième exil. Bien sûr, la raison est donnée dans le Talmud, vous le savez, Al-Kamsa, Verbar Kamsa, Harva, Yerushalayim, à cause de ce qu'on appelle Sinat Rinam, à cause de la haine gratuite. Je ne vais pas, bien sûr, m'approfondir sur cette notion historique, mais un bref rappel, comme vous le savez, techniquement parlant, sur le terrain de l'histoire, l'époque donc de la destruction du deuxième temple est une époque où notre peuple est divisé, subdivisé en factions, en différents mouvements, en différentes tendances. Et ces mouvements, ces tendances, ces factions sont divisées, se querellent les unes et les autres. Et on arrive jusqu'à cette sinatrinam, cette haine gratuite qui fait que pendant le siège de Jérusalem, on aura ce témoignage de Flavius, d'ailleurs repris dans le Talmud aussi, qui dit que les Romains se sont rendus compte que ça servait à rien de se battre contre les Juifs qui se trouvaient enfermés à l'intérieur de Jérusalem, puisque dès que les combats cessaient, le combat intérieur reprenait et les différentes factions de Juifs qui étaient à l'intérieur de Jérusalem se hissaient tellement qu'elles se battaient les unes contre les autres, et finalement les Juifs faisaient pour les Romains le travail des Romains. Et finalement ils ont tout simplement tenu le siège pendant 3 ans, et puis après ils ont poussé la porte et ils ont pratiquement pu trouver personne. Aussi incroyable que ça puisse l'être, nos maîtres donc nous révèlent Sinatrinam, une haine absolument incroyable qui régnait à l'intérieur de toutes ces factions qui se trouvaient et à l'intérieur du peuple juif. Je veux juste malgré tout rapporter quelque chose que je n'ai pratiquement jamais rapporté, en tous les cas jamais d'une manière aussi claire que je vais le dire. Il faut savoir que ça a commencé à aller très très mal depuis l'époque de Hérode. Il faut savoir que d'après notre tradition, et c'est pas notre tradition dans le sens que c'est pas vrai sur le plan historique, c'est vérifié sur le plan historique aussi, n'oublions pas que Hérode était au départ un Édomite. Certains disent c'était le chef des esclaves de la famille des Hachmonéens, d'autres disent peu importe, en tout cas, de la vie de tous, c'était un Édomite. Édom, comme par hasard, c'est à ce moment-là que commence l'exil de Édom. Un Édomite converti, mal converti, faussement converti, tout ce que vous voulez. En tous les cas, un pseudo-juif, mais quoi qu'il en soit, venant de Édom. Et lorsqu'il a pris le pouvoir, l'une des choses essentielles qu'a fait Édom, sachant que de toute façon il n'était pas vraiment accepté à l'intérieur du peuple juif, parce que d'abord c'était un tyran, un dictateur, et en plus c'était pas un vrai juif, il s'était converti uniquement pour la forme. Et donc ce qu'il a fait, c'est d'amener en Israël pour asseoir son pouvoir, exactement comme Assad a fait, pour régner sur 90% de citoyens qui ne sont pas du tout de la même tendance que lui, de la même famille que lui. Lui c'est un alouite. Et les Alouim sont minoritaires en Syrie, 80% ne le sont pas, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé au pouvoir que des Alouim. Bon, ça aura valu ce que ça aura valu. Aujourd'hui, il le paye, et dans quelques semaines ou mois, on l'aura déjà oublié. Quoi qu'il en soit, c'est exactement ce qu'a fait Hérode. Hérode a amené, puisqu'ils habitaient dans le sud d'Israël, il a amené des dizaines, voire des centaines de milliers de Édomim, qu'il a converti comme ça à la va-vite pour qu'ils puissent s'intégrer. Et c'est sur eux qu'il a construit son pouvoir. Il les a placés aux postes les plus importants, bien sûr. Et surtout, ces faux juifs, intégrés plus ou moins dans la société israélienne, enfin juive de l'époque, forcément ont été l'une des grandes causes, si pas cause principale, de cette dégradation de la société juive, parce que il y avait leur présence à l'intérieur de la société d'Israël, et le fait qu'eux n'étaient pas du tout intégrés, donc ils étaient de toute façon en marge, et c'est eux qui ont été en grande partie, je ne dis pas que, mais en grande partie, sur le plan purement historique, le facteur de ce trouble, de cette désunion. Et c'est eux qui ont été d'une certaine manière à la cause de toute la cause première et principale de toutes les querelles qu'il y a eu à l'intérieur du peuple juif. Ce rappel historique est fondamental parce que bon, nous en tant que juifs, on est un petit peu maso, comme on le sait, on adore se dire qu'on est responsable, on est le responsable de tous nos malheurs. Mais pour rendre justice malgré tout à la véracité historique, il faut savoir que les choses ne sont pas si simples que ça, et que Hérode avait une intention qui a réussi de détruire Israël de l'intérieur, et il est arrivé grâce à ces centaines de milliers d'Édomites qu'il a amenés à Jérusalem et qu'il a éparpillés un peu partout dans les villes principales d'Israël. On a notre propre responsabilité, c'est sûr, mais quoi qu'il en soit, l'histoire nous a aussi drôlement aidés par l'intermédiaire de Hérode. En tous les cas, donc, nos maîtres parlent de cette Sinatrinam. Bien sûr, on ne va pas en dire plus pour l'instant, on va remonter un petit peu plus haut. Cherchons maintenant des causes plus mystérieuses, moins évidentes de ce qui finalement a causé la destruction du deuxième temple et le début de ce dernier et si long exil. Alors, la première raison qu'on a évoquée est la plus facile, parce que c'est celle que les historiens, que les rabbanim, que les journalistes pouvaient constater d'eux-mêmes. Or, on sait très bien, on a un principe fondamental, une avalanche commence toujours avec différents degrés de boules de neige, jusqu'à la petite boule de neige qui, tout au haut de la montagne, n'est absolument pas visible, et personne ne peut encore deviner qu'elle va pouvoir, cette boule de neige, par une suite de transformations malheureuses, détruire un village et devenir la tombe de dizaines de milliers de personnes. Donc nos maîtres sont partis à la recherche des différents niveaux, jusqu'à la première boule de neige, qui sont la cause finalement de l'avalanche. Et ils remontent. Alors quand ils remontent, bien sûr, ils remontent dans d'autres époques que celle où s'est passée véritablement l'avalanche, celle dont on vient de parler. Et ils remontent un petit peu plus haut. Et voilà que nos maîtres, et vous le savez, font remonter ce dernier exil d'Israël à une raison, à un temps historique qui précède l'avalanche de plusieurs et nombreux siècles. Ils remontent, comme vous le savez tous, jusqu'à la faute des explorateurs. La faute des explorateurs qui a eu lieu donc 2000 ans à peu près, à quelques siècles près, 2000 ans avant la destruction du deuxième temple. Et qu'est-ce que disent nos maîtres? Vous le savez tous, parce que les explorateurs, quand ils sont revenus découragés, ont découragé Israël de rentrer en Eretz Israël, il est marqué, comme vous le savez, Vaïf Kubalaïlahaou, ils ont pleuré cette nuit-là. Or, tout celui qui lit le texte est étonné. Si on nous dit cette nuit-là, on précise celle-là, alors dit de quelle nuit s'agit-il? Or, le verset utilise une forme grammaticale de précision, mais ne dit pas de quelle nuit il s'agit. La tradition rapporte, c'est une nuit tristement célèbre dans l'histoire, c'était la nuit de Tisha B'Av, et c'est facile à calculer. Ils ont été effectivement envoyés en Shlichut, en mission, le 29 Sivan, et du 29 Sivan, vous rajoutez 40 jours, vous tombez Tisha B'Av. Donc à Tisha B'Av, ils reviennent, cette fameuse nuit, que la Torah ne veut pas citer explicitement parce qu'elle est porteuse de malheur, la nuit où a été détruit le premier temple, la nuit où a été détruit le deuxième temple, la nuit qui est le symbole des exils d'Israël. Et à ce moment-là, on connaît tous notre tradition qui dit « Vous avez pleuré pour rien cette nuit-là, vous n'auriez pas dû écouter les explorateurs, vous pleurerez pour quelque chose dans tous les Tisha B'Av à venir. » Et donc, c'est la raison évoquée comme l'une des étapes boule de neige, on va en voir encore des boules de neige qui précèdent celle-là, qui font que finalement, la Ishtalshelut, comme vous savez, quand des fois on voit apparaître des taches d'eau dans une maison, il ne faut pas s'imaginer que l'eau est juste derrière le mur. L'eau peut être sur un balcon à 30 mètres, si la maison est grande, à 30 mètres ou 40 mètres de l'endroit où apparaît la tache, parce que l'eau s'infiltre. Et donc, il y a eu une infiltration de faute à ce moment-là, qui a traversé l'histoire, et la tache est apparue, ou selon le premier langage, la boule de neige, l'avalanche est apparue, avec la destruction du deuxième temple. Maintenant, ce qui est extraordinaire, si vous pouvez poser la question, quel est le rapport? Il y a forcément un lien entre une avalanche et une boule de neige. Les deux sont de la neige. Donc si l'avalanche est de la sina, c'est de la haine gratuite, il faut forcément qu'on retrouve de la haine dans la faute des explorateurs. Or, la faute des explorateurs, avec tout ce qu'on a déjà expliqué, c'est tous apparemment sauf de la haine. Où on retrouve l'élément haine dans la faute des explorateurs? Alors il va falloir bien sûr, pas de bruit dans la cuisine, merci. Il va falloir bien sûr, c'est l'aspect providentiel de ce cours, remonter à la parcha de cette semaine, et dans Mishneh Torah, donc dans ce cinquième livre qu'on a commencé, Comme on le sait, le cinquième livre, on aura l'occasion d'en parler, le cinquième livre révèle, globalement le cinquième livre reprend pratiquement tout ce qui a déjà été dit dans les quatre premiers. Mais reprend, et surtout, quand on le lit avec des yeux pour voir, on s'aperçoit que dans les histoires généralement reprises, à chaque fois le cinquième livre va rajouter un ou deux éléments qui n'avaient pas été dits auparavant, au moment où l'histoire s'est vraiment passée, parce que dans le cinquième livre, ce ne sont que des reprises. Mais dans la reprise de l'événement, Moshe va rajouter des fois un mot ou deux qui sont un éclairage inimaginable sur tout ce qui avait été dit qu'on ne pouvait pas comprendre avant. Il va falloir attendre le cinquième livre pour que ce mot clé va nous ouvrir la porte de ce qu'on avait lu avant sans vraiment le comprendre. Et effectivement, quand dans notre paracha du cinquième livre, Moshe reprend la faute des explorateurs, il va introduire une notion cause de faute qu'il n'avait jamais dit jusqu'à maintenant. Et regardez ce qu'il nous dit. Au moment où les explorateurs reviennent, Vateragnu Beroalechem, vous vous êtes mis à vous révolter dans vos tentes, ça veut dire, pardon, vous avez commencé à comploter dans vos tentes, Vatomru, et vous avez dit, Besinat Hashem Otanu Otsianu Meretz Mitzrayim, c'est parce que Hashem nous haït qu'il nous a sortis d'Égypte, la tête au Tanou Béa Daemori, pour nous donner entre les mains du Cananéen, lâche-nous pour qu'il nous détruise. Révélation qu'on n'avait pas vue dans l'histoire elle-même des explorateurs, racontée elle dans le quatrième livre, celui que nous venons de terminer, Parshat Shlach. La Torah rentre en détail sur tous les aspects de cette faute, mais cet élément n'est pas dit. On arrive à Devarim, mais là on le révèle. Nos maîtres disent pourquoi ? Parce que la lecture du Sefer Devarim tombe toujours à l'époque de Tisha B'Av, et là la Torah nous révèle que l'une des causes, et faut-il croire la cause essentielle, puisque c'est la seule que ce cinquième livre reprend, de toutes les causes qu'on connaît, il ne voulait pas rentrer en Eretz Israël parce qu'il préférait étudier la Torah que se retrouver sur un tracteur, etc. Tout ce qu'on sait est vrai, mais ce n'est pas la véritable raison que reprend ici Moshe Rabbeinu. Comme conclusion à la faute des explorateurs, il dit « Sachez que la raison est parce que les Juifs se sont mis en tête que Dieu les haïssait et c'est pour ça qu'il les avait fait sortir d'Égypte pour les détruire aux portes de la terre de Canaan. » Rashi dit « Comment ont-ils pu croire que Dieu les haïssait ?» Rashi dit « Ils n'ont fait que projeter sur Dieu leur propre manière de voir Dieu parce que eux haïssaient Hachem, ils ont cru qu'ils étaient haï. » Là, Rashi révèle un phénomène absolument incroyable. Tu ne peux haïr, tu ne te crois haï que parce que toi-même, tu haïs. Je pourrais bien sûr consacrer, vous imaginez, et vous, je pense autant que moi, des milliers d'heures de cours sur ce concept de psychologie qui est une véritable révolution. Le problème que tu vois chez l'autre, c'est parce que tu l'as chez toi. C'est vrai dans le domaine de la haine, c'est vrai dans tous les domaines. Ce que tu reproches à l'autre, ce n'est que le miroir de ce que tu es exactement toi en train de faire, comme Shmuel dans le Talmud nous l'apprend, « Kol haposel bemumo ou posel ». Le défaut que tu vois chez l'autre, il est d'abord chez toi. Donc, ça c'est un principe fondamental. Parce qu'au plus profond d'eux-mêmes, ils haïssaient Hachem, c'est pour ça qu'ils sont arrivés par le biais de leur fantasme à se mettre en tête que Hachem les haïssait. Bien sûr, je ne vais pas consacrer pour l'instant plus de profondeur à ce que je dis, mais quoi qu'il en soit, en remontant maintenant la piste de l'avalanche, on s'aperçoit que la faute qui a précédé l'avalanche, qui elle est une explosion de haine entre les Juifs, c'est aussi un problème lié à la haine, mais là cette fois-ci une haine entre les Juifs et Hachem. Il nous haït ou on le haït, peu importe, l'un n'est que le miroir de l'autre. Donc on suit notre piste, on est maintenant sur la route de la haine. Il y a la route du vin, il y a la route de Provence, il y a la route de ce que vous voulez. On est sur la route de la haine. On va remonter un petit peu plus haut. Nos maîtres ne s'arrêtent pas là. Ils disent, il y a forcément, avant cette grosse boule de neige, parce que les explorateurs, c'est déjà une très grosse boule de neige, bien que ce n'est pas encore une avalanche, il y a forcément avant cette grosse boule de neige, une boule de neige un peu moins grosse, mais qui a précédé celle-là. Et nos maîtres remontent plus haut encore, ils disent quelle est la raison qui a amené les explorateurs, qui a amené la destruction du deuxième temple? Pour quelle raison étant en exil? Qui se rappelle quelle est la grande faute qui a précédé celle des explorateurs, que nos maîtres ciblent comme étant l'une des causes fondamentales de notre dernier exil? La vente de Yosef par ses frères. Je demande des choses claires, explicites. D'où on sait la vente de Yosef par ses frères? Parce que quand Yosef retrouve Benjamin, il lui saute dans les bras et il dit là, et là-bas il est dit, il pleura sur ses coups. Or, comme on n'imagine pas que l'un des enfants de Jacob était un monstre qui avait deux coups et deux têtes, comment la Torah se permet-elle de dire qu'il avait deux coups? Alors que tout de suite après, il est dit qu'il a pleuré dans les bras de ses autres frères et c'est marqué là-bas sur son cou. Alors pourquoi sur ses coups? Alors bien évidemment, vous connaissez tous l'explication des maîtres d'Israël, la Torah est à lire à plusieurs niveaux. Le cou symbolise le temple, le cou est l'endroit qui unit le haut et le bas, la tête et le corps. Le cou est le lieu du corps qui unit le cerveau aux pulsions. Et dans l'espace en terre d'Israël, le cou bien sûr, c'est le temple qui unit le maître du monde à son monde. C'est la raison pour laquelle vous verrez dans de nombreux versets du Shir HaShirim, Shlomo dit que le cou de sa bien-aimée est rempli de bijoux et de bracelets, de, je ne sais pas comment on appelle ça, enfin vous m'avez compris, de colliers, pardon. Et là-bas, nos maîtres expliquent que ça fait allusion à quoi? Pourquoi rentre-t-il tellement dans les détails de la beauté du cou de sa bien-aimée, du cou dans les deux sens, j'imagine. Mais c'est parce qu'il fait allusion au Beth Amikdash et nos maîtres savent expliquer que chacun des bijoux là-bas fait allusion à un ustensile du temple. En tous les cas, donc, le temple est appelé le cou. Et automatiquement, lorsqu'on a perdu le temple, on a eu le cou coupé, qu'est-ce qui s'est passé? La perte de la royauté d'Israël. C'est la raison pour laquelle la Révolution française, je sais que c'est très osé ce que je dis, mais c'est encore plus vrai que osé, la Révolution française a repris tous les schémas bibliques les plus fondamentaux pour mettre fin à la royauté, pour mettre fin à la prédomination de l'Église qui représente dans sa conception à elle le temple, on a coupé les coups. Et en coupant le cou, plus de roi et plus d'église. Et donc c'est un symbole profondément biblique qui a été emprunté à la compréhension, on pourrait dire, profonde d'Israël et très certainement devait traîner derrière tous ces révolutionnaires, comme souvent dans les révolutions, quelques juifs perdus qui ont sans doute insufflé à ces révolutionnaires les symboles les plus puissants de la Révolution française, car comme on le sait aujourd'hui, liberté, fraternité et égalité, la traduction juive de Pessah, Shavuot et Sukkot. En tout cas, peu importe. Quoi qu'il en soit, le coup donc fait allusion au temple. Et qu'est-ce que disent nos maîtres? Pourquoi Yosef a-t-il pleuré sur les deux coups de Benjamin? Parce qu'il a pleuré la destruction des deux temples qui allaient être détruits sur le territoire de Benjamin. Car les deux temples sont construits sur le territoire de Benjamin. Donc on voit que Yosef fait allusion, lui, et bien sûr on va comprendre pourquoi, au fait que les deux temples vont être détruits. Et pourquoi les deux temples ont été détruits liés à Yosef? Parce que qu'est-ce qu'il est dit au sujet de Yosef, et vous le savez tous? Qu'est-ce qui s'est passé entre lui et ses frères? On est dans Bereshit, qu'est-ce qu'il est dit? Vayiru echav ki oto ahav aviem, ses frères ont vu qu'il était l'aimé du père, vayisnu oto, et ils l'ont haï. On retrouve la troisième piste de la haine. Ça valait le déplacement. On retrouve notre route de la haine, sauf qu'on la monte à l'envers. La haine gratuite du destruction du temple, Hachem nous haït, les explorateurs, et les frères qui haïssent Yosef, à cause de la faute de la haine, il est vendu, et quand il retrouve son frère, il comprend que la faute n'a pas été complètement réparée, deux temples seront détruits. Donc on est vraiment, alors on retrouve tous les éléments de la destruction. C'est intéressant. On était tout en bas, la haine entre les Juifs. On a eu une étape intermédiaire, la haine entre Israël et Hachem, enfin selon le fantasme bien sûr d'Israël. Et maintenant on revient à une haine horizontale, c'est-à-dire la haine entre entre les frères. Et vous allez, on va toujours être soit à la verticale, soit à l'horizontale. C'est un schéma vertical-horizontal qui est le schéma de la haine, comme on le sait. En tous les cas, on a maintenant à nouveau un schéma qui est un schéma horizontal. Et c'est une drôle de route. C'est une route bon, qui a une drôle de forme. Des fois elle monte, des fois elle est à l'horizontale. Mais c'est toujours la même route, la route de la haine. Quoi qu'il en soit, nos maîtres ne s'arrêtent pas là. Car ils se disent, oui, mais la haine que les frères ont pour Yosef, c'est encore une boule de neige relativement grosse. Et on voit qu'il y a un problème. En plus, la Torah le dit. Donc si elle le dit, c'est déjà une boule de neige dangereuse. Il y a forcément avant la boule de neige dangereuse que tout celui qui la verrait, qui crierait aux habitants, attention, 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 où est la vraie boule de neige qui, lorsqu'elle se forme, on ne peut même pas deviner encore qu'elle va être dangereuse, et pourtant c'est elle qui va tuer. Donc ils remontent encore, encore, encore plus haut. Et ils nous disent, attention, la vente de Yosef fait partie d'un processus qui a amené à l'exil, comme on le sait, premier exil, l'exil en Égypte. Mais attention, l'exil en Égypte lui-même, il avait été annoncé à Abraham, bien avant même la naissance de Yitzhak. Comme il est dit, « Vayomer Hachem el Avram »« Avram », retenez bien parce que ça sera sans doute le cours de demain, « Avram »« Yodea teda ki ger yezaracha beretz lo lahem ve'avdu otam arba meot shana » Sache que ta descendance sera en exil pendant X années, etc. Et donc c'est à ce moment-là qu'est annoncé à Avram, c'est pas encore Abraham, le futur premier exil d'Israël, la descente en Égypte. Maintenant, on va essayer d'approfondir un petit peu cette notion-là. D'abord, pourquoi ? Quelle est la raison ? Apparemment, un exil, c'est lié à des fautes. Où sont les fautes? Où est la faute? Puisque ceux qui vont descendre en Égypte ne sont pas encore nés. Yitzhak n'est pas encore né, donc il n'a pas encore fauté. Et dire que Dieu dit en prophétie ce qui se passera parce que lui voit à l'avance, c'est absolument impossible au regard de la sagesse d'Israël. Pourquoi? Parce que ça serait dire que l'homme est déterminé à fauter. Or, il ne peut pas y avoir une prophétie qui annonce d'une manière formelle qu'on fautera et voilà ce qui se passera. Les prophètes n'ont jamais dit « vous allez fauter, vous allez être détruits ». Si vous fautez, alors le temple sera détruit. Mais le « si » est fondamental. Or là, Hachem dit « Yodea Teda ». Il affirme qu'il y aura descente en Égypte. Ça ne peut donc pas être lié aux fautes des futurs nés. Car dans ce cas-là, la Torah aurait dû dire « si tes enfants fautent, ils descendront en Égypte ». Donc, ce n'est pas lié à la faute qui va venir. Alors, c'est lié à quoi? Nos maîtres répondent. En vérité, l'allusion est dans le verset lui-même « Yodea Teda ». La descente en Égypte est liée à une faute qui a précédé, qui est liée au mot « da'at ». Et qu'est-ce qui est lié à au mot d'Adam? La première faute de Adam qui a fauté avec le Etz Adat Tov Vera. Mais avant de revenir, on a enfin trouvé notre boule de neige. Revenons d'abord à l'étape, l'avant-dernière avant d'avoir trouvé la vraie raison. C'est donc ce que il est annoncé à Abraham. Abraham, pardon. D'où sait-on que ce qui se passe avec Yosef est la conséquence directe de ce que Hachem annonce à Abraham? Parce que quand Yaakov envoie Yosef voir ce que font ses frères, il est dit là-bas qu'il l'a envoyé Me'emek Chevron. Il l'a envoyé Yosef voir ses frères Hachem Me'emek Chevron. On a tous été mille fois à Chevron. Chevron n'est pas dans Emek, et Chevron est en hauteur. Chevron est sur des collines. Pour Israël, ça s'appelle déjà des petites montagnes même. Mais ça ne prend pas une vallée. À moins que la terre ait changé depuis l'époque, vadaï que non. Donc, comment peut-on dire Emek, la vallée de Chevron, alors que Chevron est en hauteur? Chevron est pratiquement aussi haut que Jérusalem. Donc, presque 1000 mètres d'altitude. 800 et quelques. 700, oui. Donc, il y a 600 mètres d'altitude. En tout cas, ce n'est pas un Emek. On peut parler de la vallée du Jourdain. Emek à Yarden, mais pas Emek Chevron. Rachid dit effectivement, n'oublions pas que la Torah n'est pas un livre d'histoire géo, la Torah est le livre de la sagesse d'Hachem qui transmet des messages. Il ne faut pas traduire ici Emek dans un langage de vallée, mais Emek dans un langage de Amok. C'est-à-dire Amok qui veut dire profondeur. Il l'a envoyé, dit Rashi, mais Emek etzato shel Avraham, de la profondeur de ce qu'Avraham avait entendu, Yodea teda ki ger yezaracha. Ça veut dire que la profondeur de cette prophétie incompréhensible que Dieu avait fait à Abraham commence à se réaliser maintenant avec Yosef qui est envoyé vers ses frères, puisque c'est là qu'il va être vendu et c'est parce qu'il est vendu qu'on va se retrouver en Égypte. Donc, mais Emek et Sato chez Abraham Avinu, de la profondeur. Comment ? Alors, on va y arriver tout de suite. Mais Emek et Sato, donc on voit qu'effectivement, c'est parce que Hachem avait dit qu'on descendrait en Égypte, que après est venue l'autre boule de neige liée à Yosef et ses frères et la haine. Mais maintenant, où retrouve-t-on le problème de la haine comme étant la véritable et première cause de toutes les causes? Parce qu'on l'a vu, Yodea Teda, tu sauras, est lié à la faute d'Adam Arishon. Etz Adaat, c'est les mêmes mots, dit le Zohar. Et la faute d'Adam Arishon, qu'est-ce que c'est si ce n'est une faute de haine? Regardez ce que dit Rashi, ça vous le savez, sonne bne umanuto. Le Nachash lui dit, mais non, mais vous ne mourrez pas. Ki yodea, parce que Hachem sait que du jour où vous mangerez de cet arbre-là, vous serez comme lui, Elohim. Regardez comment Rashi explique ce que le Nachash est en train de suggérer. Ce sont des paraboles, bien sûr, tout ça. Tout se passe dans la pensée de l'homme. Mais qu'est-ce qu'il est en train de penser, dit Rashi? Kol uman sone bne umanuto. Tout artisan, c'est un proverbe, haït celui qui fait le même métier que lui. Et donc, en quoi il vous haït Hachem? Mina etz achal. Lui-même a mangé de cet arbre-là. Ubara et Aola, mais il a créé le monde. Et pour vous empêcher, dit Rashi qui suit, d'être des créateurs comme lui, il vous interdit de manger de cet arbre qui vous donnera la force d'être comme lui. Lui, son métier, c'est d'être un créateur. Et évidemment, il va pas, un artiste peintre ne va pas apprendre à son voisin à peindre aussi bien que lui. C'est évident. Parce que Kol Uman Sone Bne Umanuto. Tout artisan haït les artisans qui font le même métier que lui. Un dentiste n'haït pas un avocat, mais un dentiste haït les autres dentistes, surtout s'il s'est installé en face de lui. C'est évident. C'est humain, c'est normal. Très bien. Et donc, alors maintenant, prêter à Hachem, ça va un petit peu loin. Vous imaginez 150 milliards d'heures de cours sur ce Rashi-là. C'est pas, bien sûr, ce qu'on va faire. Mais on s'adresse à des gens intelligents qui savent, depuis le temps qu'ils nous écoutent, que tout ça, ce sont des paraboles, des métaphores, des codes qu'il faut déchiffrer pendant des milliards d'années. Quoi qu'il en soit, à notre niveau, qu'est-ce qu'on comprend de là? Qu'effectivement, le Nachash est arrivé à mettre dans la tête d'Adam et Chava qu'ils étaient haïs, selon Rashi, parce que eux-mêmes haïssaient, et donc c'est comme ça que tout a commencé. Surtout ne l'écoutez pas, il vous interdit ça parce qu'il vous haït. Vous remarquerez qu'on a trouvé notre chemin s'est passé à nouveau vertical. On n'arrête pas de faire du chemin vertical-horizontal. Comment qu'on le voit? On a commencé à l'horizontale, les juifs haïssent les juifs, l'époque deuxième temple, après on passe à une verticale, les juifs se croient haïs par Hachem, et le contraire aussi, après on retombe sur une horizontale, Yosef est haï par ses frères, et en toute première cause, on retrouve une verticale, Hachem haït les hommes, ou les hommes haïssent Hachem. On a donc deux horizontales et deux verticales, on a donc deux chemins très bizarres, d'accord, qui ont une drôle de forme. Quoi qu'il en soit, c'est pas la forme qui nous intéresse, la superposition du vertical et de l'horizontal, et ce que cela signifie, mais quoi qu'il en soit, ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir cette logique absolument incroyable, où on commence, quand on remonte les causes les unes après les autres, on a d'abord la haine entre les hommes, puis après la haine entre Dieu et les hommes, à nouveau la haine entre les hommes, et après nouveau la haine entre Dieu et les hommes. C'est sûr que ça ne peut pas être un hasard que ça soit à ce point mathématiquement précis. Vous remarquerez, il y a donc, on a remonté toutes les causes jusqu'à la boule de neige. La boule de neige était « Dieu vous haït ». Après, la première application de cette boule de neige, Yosef est haï par ses frères. Après, à nouveau, les explorateurs, Dieu nous haït, et conséquence de Dieu nous haït, à nouveau, les Juifs se haïssent. Donc, à chaque fois, on a Dieu nous haït, les hommes se haïssent, Dieu nous haït, les hommes se haïssent. Qu'est-ce qu'on comprend de là, mes amis? Déjà, une chose extraordinaire, c'est que ma relation à autrui est liée à ma relation à Dieu. Ce que je pense qu'il pense va automatiquement avoir une influence sur ce que je pense que tu penses.
D'accord. La haine de Dieu conduit à la haine des
Comment? La haine de Dieu conduit à la haine entre les hommes. Ça peut être aussi dans les deux sens. La haine entre les hommes amène à la haine de Dieu. Puisque c'est vrai que selon qu'on le prend du haut vers le bas ou du bas vers le haut, si on le prend du haut vers le bas, on commence par la haine de Dieu, qu'on croit qu'il nous haït parce qu'en réalité c'est nous qui le haïssons. Si on va du bas vers le haut, on commence par la haine entre les hommes. C'est connu au niveau de la pensée juive, une vérité se lit toujours de droite à gauche, de gauche à droite, du haut vers le bas et du bas vers le haut, pour nous montrer que cette symétrie elle est dans les deux sens. On peut arriver à la haine de Dieu en commençant par la haine des hommes, on peut arriver à la haine des hommes en commençant par la haine des dieux. Par la haine de Dieu.
Mais c'est pas la bria, ça commence à Katav Betsalmeno, Bidmuteno, Nivra Otan.
Nahon, absolument. Donc, comme on est à l'image de Dieu, automatiquement, les répercussions. Donc, on a quelque chose d'absolument extraordinaire. On va faire le point parce que c'est vraiment fabuleux. Ces notions-là, on ne les a jamais expliquées comme on les explique aujourd'hui. Finalement, tout a commencé avec un sentiment de haine. Je ne vais maintenant pas jouer sur est-ce que c'est la haine entre l'homme et Dieu ou la haine entre les hommes et les hommes. Tout a commencé avec un sentiment de haine. C'est-à-dire que le dernier exil, qui est le principal de tous les exils, celui dont on doit sortir pour mériter la délivrance finale, est l'avalanche d'une boule de neige qui a commencé à se former autour du concept de la haine. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on vient de résumer toute l'histoire du monde autour de son centre fondamental qui est le sentiment de haine. Le sentiment de haine, je te haïs ou je suis haï, le sentiment de haine dans les deux sens est le point fondamental autour duquel tourne toute l'histoire du monde, pas seulement d'Israël. Maintenant, je vais compléter dans quelques instants. C'est intéressant de remarquer qu'en hébreu, le mot sina pour racine, shin nun, qui veut dire shoné et sheni. Ce qui veut dire que le génie de l'hébreu, le mot lui-même te révèle son sens. Pourquoi tu haïs? Tu haïs le deuxième, tu haïs l'autre, sheni, et pourquoi tu le haïs? Shoné, parce qu'il est différent. Donc, ici, on a l'explication fondamentale du sentiment de haine. Je haïs ce qui n'est pas moi. Et pourquoi, dès que ce n'est pas moi, je haïs? Parce que si ce n'est pas moi, c'est donc un autre. Il est donc différent. Sheni, shoné. Et donc sina. Sheni, shoné, sina.
Je vous donne encore une révélation. Sina, il y a les mots shana. Shana, c'est le temps. Et aleph. C'est Aleph Lamed Pei, Alfe Shanim, l'exil, Alfe Shanim, Sina.
Et donc, on a, encore une fois, Sheni, Shoné et Sina. C'est tout le problème de l'histoire humaine. Maintenant, essayons de comprendre, avant que je vous rapporte à nouveau cette histoire que je pense déjà va rapporter l'année dernière, mais pour mettre le point essentiel à nouveau sur une notion très importante, après on passera aux questions. Finalement, qu'est-ce qui dérange dans le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit différent? Qu'est-ce qui dérange? Pourquoi ça se traduit par un sentiment de haine? Mais ce qui est quand même très intéressant, Rashi nous révèle qu'en vérité, je ne peux croire que je suis haï que parce que moi-même je haïs. Mais quoi qu'il en soit, la Torah, elle, parle de ce sentiment d'être haï qui est à la cause, qui est la cause du problème. C'est parce que nous croyons être haïs par Hachem que nous avons fait la faute des explorateurs. C'est parce que nous croyons être haïs par Hachem que nous pensons qu'il nous interdit de manger du fruit de l'arbre de la connaissance. Bien que dans le fond du fond, c'est parce que moi-même je le haïs que je crois que je peux être haï. Mais la vraie raison est je crois être haï. Bien que si je crois être haï, c'est parce que moi-même je haïs. Mais qu'est-ce que la Torah veut nous mettre en évidence ici? C'est qu'en vérité, toi tu haïs. Ça c'est une certitude. Tu crois être haï, c'est un fantasme. Oh! Bien sûr, c'est un fantasme d'imaginer qu'Hachem interdit de manger du fruit de la connaissance parce qu'il a haï Adam et Chava. Bien sûr, c'est un fantasme de croire que Hachem a sorti Israël d'Égypte pour qu'il se fasse massacrer au pied, à la frontière d'Eretz Knaan. C'est un fantasme pur. Rashi révèle que tu ne pourrais pas arriver à ce fantasme si toi, au départ, tu n'étais pas toi-même en train de haïr. La question donc est, pourquoi la Torah révèle l'aspect fantasme et non la véritable cause? Pourquoi la Torah ne dit pas, parce que Adam et Chava haïssait Hachem, ou parce que les explorateurs haïssaient Hachem, pourquoi la Torah le rapporte, on pourrait dire, au niveau de la conséquence, qui est le fantasme? Parce que justement la Torah veut nous faire comprendre que le véritable désastre qui détruit le monde, ce n'est pas tant le défaut en tant que tel, mais c'est ce qu'il produit. Le fantasme est le fruit des défauts. Dès qu'une personne laisse les défauts se dévoiler et se développer en lui, à ce moment-là, il rentre dans une vision complètement fantasmagorique de la réalité. Simplement, pourquoi la Torah a expliqué ce principe qui est vrai pour tous les défauts? Donnons un exemple simple. Dans un autre domaine, tu aimes une femme mariée, quand tu vas te créer tout un fantasme qu'elle est la femme de ta vie, et tu vas aller avec elle alors qu'elle est encore mariée. Or, on a besoin de rentrer en détail pour que tout le monde comprenne que, en tout cas, tant qu'elle est mariée avec cet homme-là, tout ce que tu peux imaginer que c'est la femme de ta vie est un pur fantasme. Mais parce qu'au départ, tu as une envie, cette envie va produire du fantasme pur qui va te faire vivre une histoire qui n'est vraie que dans l'illusion dans laquelle tu t'es enfermé. Parce que rien de bon ne peut sortir de là. Ça va forcément terminer par une catastrophe. Et donc automatiquement, le fantasme, c'est lui qui va te faire vivre la chose, alors que le désir au départ, si tu avais eu envie d'une femme mariée mais que ça s'était resté là, tu ne te serais pas détruit, ni elle, ni sa famille, ni rien. Mais le vécu de ce désir, lui, est pur fantasme. Maintenant, pourquoi la Torah prend l'exemple de la haine comme étant le modèle fondamental de ce qu'on explique? Parce que rien ne détruit le monde plus que les fantasmes produits par la haine. Quand tu haïs quelqu'un, tu rentres dans un phénomène de fantasme destructeur comme ce n'est pas possible. Et rappelez-vous l'histoire que je vous ai rapportée l'année dernière. L'histoire que le Talmud rapporte, Kamsa et Bar Kamsa. Je ne vais maintenant qu'au résumé pour remettre en évidence ce que je vous avais déjà appris et je termine le cours pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un homme à Jérusalem, un homme riche qui faisait un très grand banquet où il invitait tout le gratin yerushalmite au banquet, au mariage de son fils. Il avait un grand ami qui s'appelait Kamsa et il avait un grand ennemi qui s'appelait Bar Kamsa. Là aussi, le jeu de mots, ils ont le même nom. Comment un peut être ton ami et l'autre ton ennemi? C'est vraiment des fantasmes, peu importe. Kamsa et Bar Kamsa. Il a donné une carte d'invitation à son serviteur, il m'a dit « Apporte l'invitation à Kamsa ». Le serviteur, il balbelle, et au lieu d'apporter l'invitation à Kamsa, il l'a apporté à Bar Kamsa. Et donc Bar Kamsa, qu'est-ce qu'il s'est dit lui? Waouh, à l'occasion du mariage de son fils, il est prêt à faire la paix avec moi. Oh, quel homme! Oh, c'est lui qui a fait le premier pas. Oh, quelle merveille! Bar Kamsa, il y va, avec l'invitation en poche. L'autre, pendant le banquet, il arrive, il dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Je t'en supplie, ne fais pas honte devant les autres. Je te paye mon repas. Dégage! Je te paye toute la table. Dégage! Je te paye la moitié. Dégage! Je te paye toute la réception. Dégage! Il le prend et le fout dehors. Bon, toute l'histoire est racontée l'année dernière, plus en détail. Mais il le fout dehors. Les commentaires posent une question évidente. Évidente. Mais cette histoire apparemment ne commence pas. Lui, le bonhomme, il a bien vu que Kamsa n'était pas là. Puisque Kamsa n'a pas été invité. Kamsa n'était pas là. Donc, il aurait dû comprendre qu'il y a eu une erreur, c'est Bar Kamsa qui a été invité à la place de Kamsa. De plus, pourquoi Bar Kamsa ne sort-il pas la carte d'invitation et lui dit, mais enfin, qu'est-ce que tu veux de moi? Voilà la preuve, la carte d'invitation, t'as qu'à engueuler ton serviteur. C'est lui qui est responsable. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi pas? Parce qu'en vérité, chacun vivait un fantasme absolument incroyable. J'explique. Le propriétaire, il voit maintenant que Bar Kamsa est là. D'accord? Qu'est-ce qu'il se dit? Le fantasme. Sans doute que Kamsa est venu. Parce que c'est évident qu'il a reçu l'invitation. Mais quand il est rentré et qu'il a vu que Bar Kamsa était assis à la place où lui il aurait dû être assis, il s'est vexé. Il a dû se dire, comment se fait-il que j'ai fait la paix avec Bar Kamsa sans le prévenir? Comment se fait-il que je lui fasse à Kamsa l'affront de mettre Bar Kamsa à sa place? Et il a dû repartir. Donc c'est pour ça que Kamsa n'est pas là. Très bien. Bar Kamsa, pourquoi il sort pas la carte? Chez lui, le fantasme encore plus grand. Ah, mais je comprends le complot. Il a dû dire à Kamsa de ne pas venir. Il a dû me donner la carte volontairement à la place de Kamsa pour que moi je tombe dans son piège et vienne et que devant 2000 personnes, il me fasse la honte et qu'il me foute dehors. Donc ça sert à rien que je lui sorte la carte et je lui dise, regarde, Kamsa n'est pas là, il y a une erreur puisque c'est sûr, c'est un coup monté. Il a dit à Kamsa, reste à la maison, on lui donne la carte, on lui fait honte devant tout le monde. À quoi ça sert que je sorte la carte? Chacun vit dans un fantasme total. En vérité, il ne t'a pas envoyé la carte exprès. Il n'a pas fait un complot avec Kamsa, etc., etc. Et pourquoi l'évidence n'arrive pas à résoudre le problème? Montre la carte, il n'y a plus de problème. Parce que chacun est dans le fantasme que l'autre lui veut du mal. Et pourquoi chacun est dans le fantasme que l'autre lui veut du mal? Mais parce que chacun, en vérité, haït l'autre. Le fait que tu haïs l'autre, ce n'est pas encore terriblement grave. Mais le fantasme, c'est lui qui va faire que ça va causer la destruction de Jérusalem, comme on le sait dans la suite de cette histoire. Donc, cette histoire illustre véritablement les dégâts causés par le fantasme, lui-même produit par ce sentiment de haine. Alors, Bezrat Hashem, demain, on va aller beaucoup, beaucoup plus loin à partir du moment où on a bien, bien exposé le début et la fin de tout ce problème-là. On va reprendre tout ce tahalir de l'avalanche et on passe maintenant aux questions. Alors, qui a des questions?
Question du chat de Martine Després. Elle pose la question, les fous convertis de notre époque ne seront-ils pas comme Hérode un danger eux aussi?
Je ne connais pas de faux convertis à notre époque, je ne suis pas là pour savoir qui est faux, qui est vrai.
Non, mais sur cette question, moi j'ai une remarque, parce que sur Hérode, il y a une position quand même assez ambivalente dans le judaïsme. Parce que d'un côté, c'est vrai qu'il est converti à la violence et tout. D'un côté, il a quand même reconstruit le temple, il a rétabli la royauté, même si c'était une souveraineté limitée.
Plus encore, nos maîtres disent que celui qui n'a pas vu le temple reconstruit par, amélioré par Hérode, n'a jamais vu un beau bâtiment de sa vie.
Il y a une exposition d'ailleurs au musée d'Israël sur Hérode, qui est intéressante, et on voit qu'aujourd'hui, bon, tous les historiens et les archéologues ne sont pas d'accord, mais il est possible que le Kotel lui-même, en fait, est un bâtiment reconstruit par Hérode. Donc, on a eu Hérode, mais il faudrait se méfier de cette analyse.
Non, on n'a pas à se méfier, puisqu'on a des critères très, très, très précis. Hérode est le prototype même du vrai mal. C'est quoi le vrai mal? Kol sheker she'en bo k'tzat emet betrilato eno sheker. Tout mensonge qui n'a pas en lui une partie de vrai n'est pas un mensonge. La Torah ne parle jamais du mal du début jusqu'à la fin. Parce que ce n'est pas un mal dangereux. Le mal dangereux est un mal qui, comme tu le montres très bien, est un mal ambigu, parce qu'il a beaucoup de bons côtés. C'est justement parce que Hérode a beaucoup de bons côtés qu'il est effectivement dans notre tradition perçu comme étant un vrai mal. Cause pratiquement essentielle à la destruction du deuxième temple sur le terrain de l'histoire, je parle. Je ne parle pas des causes beaucoup plus profondes qui n'ont rien à voir avec lui. Mais parce que justement, c'est un mal ambigu. D'un côté, il a des aspects extraordinaires et d'un côté, il a des aspects extrêmement négatifs. Et c'est l'ensemble des deux qui ont amené justement la destruction. On sait très bien que tous les personnages bibliques jusqu'à Hérode, bien que ce n'est plus un personnage biblique, sont toujours des personnages qui sont justement ombre et lumière. Et c'est pour ça qu'à cause de leur lumière qui nous aveugle, ils arrivent à nous détruire avec leur ombre. Oui.
Martine Després, elle dit que dans le cours sur les Ghibli, oui, vous avez parlé effectivement des faux convertis.
Bien sûr, on en parle. À Thomas, on parle. Mais je ne vois pas quel est le rapport avec le cours d'aujourd'hui. C'est une notion potentielle qui existe, absolument, les faux convertis. Mais quel est le rapport avec aujourd'hui?
Alors, Doeg, il était comment? Il a détruit aussi la Doeg.
Qui?
Shaul Doeg. Il était un magicien, quand même.
Oui, mais Doeg, c'était le Sanhedrin. C'est justement un personnage, lui aussi, ombre et lumière. D'un côté, c'est un géant dans certains domaines. D'un autre côté, c'est une crapule dans d'autres. Ce sont ces personnages qui sont extrêmement dangereux, parce qu'ils sont entièrement crapules.
Mais l'enfant, ça.
Rachel de Paris. Comment est-il possible que les explorateurs haïssent Hachem s'ils sont les grands de la génération?
Alors, c'est une question qui s'inscrit un petit peu dans la profondeur de ce cours et que j'avais l'intention de traiter un peu plus demain. Évidemment, quand on parle de haine des explorateurs ou de haine de Adam et Chava par rapport à Hachem, qu'on n'imagine absolument pas qu'il s'agit de la haine comme nous on le comprend à notre niveau. La haine est quelque chose d'extrêmement subtil. L'une des preuves que le concept de haine dans la Torah n'a rien à voir avec la haine de la rue et de ce qu'on voit aujourd'hui dans notre monde, c'est rapporté par le Zohar au sujet de ce qui est dit entre Yaakov et Léa. Yaakov, il est dit clairement... Non, il est dit que Léa se sentait haï par Yaakov. Plus encore, il est dit que Hachem a donné un enfant à Léa parce qu'elle était haïe par son mari. Or, là on a une preuve absolue que le mot haine dans la Torah n'est pas à prendre à notre niveau, comme tout dans la Torah, parce qu'il y a une halakha explicite, et qui est vraie jusqu'à aujourd'hui, un homme n'a pas le droit de s'unir avec sa femme quand il l'a haï. Et nos maîtres vont beaucoup plus loin que ça encore. Ils disent que tout celui qui a un enfant avec une femme qu'il haït, l'enfant tournera très 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 mal. Donc il est absolument inconcevable d'imaginer que Yaakov s'est uni et a fait 8 enfants à Léa s'il l'a haï 7 tel qu'on le comprend nous-mêmes. En plus, parmi ses enfants sont sortis les plus grandes tribus d'Israël. Les Lévi'im, les Kohanim, Issachar la tribu de l'homme des Torah, Yehuda la tribu des rois et du Mashiach. Et donc automatiquement les enfants sont bien sortis, et en plus Yaakov ne pouvait pas ne pas connaître une halakha que n'importe quel des petits juifs d'aujourd'hui a l'obligation, en tout cas s'il veut suivre la loi d'Israël, a l'obligation d'accomplir. Tant que tu es en conflit avec ton épouse, tant que vous n'avez pas fait la paix, il est absolument interdit de s'unir. Donc comment Yaakov peut-il haïr Léa et s'unir avec elle et faire entre autres la tribu de la Kehuna ou la tribu du Mashiach? Donc il ne s'agit pas de la haine telle qu'on le comprend nous. Il s'agit de la haine à un niveau beaucoup, beaucoup plus subtil, beaucoup plus fin, qu'on va expliquer à partir de demain. Exactement comme ce que j'ai expliqué au niveau de la boule de neige et de l'avalanche. Quand on nous dit que les explorateurs haïssaient Hachem, c'est vrai qu'ils les haïssaient. Mais c'était une haine boule de neige. À notre niveau, il s'agit de haine avalanche. Maintenant, c'est vrai que sans la haine boule de neige, on n'aura pas la haine avalanche. À plus forte raison, la haine que Adam éprouvait vis-à-vis d'Hachem était une haine flocon de neige par rapport à notre haine à nous. Ça n'empêche que c'est à partir de flocons de neige qu'on arrive à une avalanche. Mais il ne faut surtout pas oublier de qui on parle, à quel niveau on parle. Ça va être, bien sûr, encore une fois, expliqué à partir de demain, ces subtilités extrêmement profondes qui, lorsqu'on les comprendra chez eux, chez ces personnages-là, sont bien sûr évidemment vraies pour nous aussi, et on va déceler chez nous aussi des traces de haine à des niveaux qu'on n'aurait jamais imaginés et qui sont la cause des haines beaucoup plus visibles, beaucoup plus. Et c'est ce que j'ai fait dans le cours. Quand, dans le cours, j'ai commencé par la haine en bas, la haine que même les Romains voyaient, au point qu'ils ont dit, ça sert à rien qu'on se batte contre les Juifs, laissez-les s'entretuer. C'est évident que quand nos maîtres après disent, oui, mais on veut remonter plus haut, ils remontent à des niveaux de haine qui sont bien sûr plus perceptibles ni par des Romains et ni même par des Juifs. Ce qui veut dire que c'est la raison pour laquelle Moshe attend le jour de sa mort, pratiquement pour révéler que la vraie raison de la faute des explorateurs était la haine des explorateurs. Pourquoi il n'a pas révélé dans l'histoire elle-même? Parce que l'histoire elle-même s'est passée 40 ans avant. Et 40 ans avant, il savait que s'il le disait, personne ne l'aurait cru. Les explorateurs lui disaient, mais tu te fous de qui? T'as pas honte d'écrire ça dans la Torah pour l'éternité? Mais 40 ans après, lorsque le peuple juif avait déjà mûri, étudié la Torah et avait plus d'expérience, des notions profondes de la sagesse d'Israël, Moshe révèle, vous savez, toutes les causes qu'on vous a racontées jusqu'à maintenant sont vraies, mais c'est encore l'écorce. Le fruit, tout a commencé parce qu'il a haïssé Hachem.
Rav, dans le cœur de Bar Kamsa, vous avez expliqué l'an dernier, ou encore avant, que la faute véritable que... Je ne sais pas si c'est dans le commentaire, c'est que justement les sages d'Israël étaient assistés au banquet, se sont tués et n'ont pas intervenu. Alors est-ce qu'on retrouverait une haine spécifique ou un conflit
d'une certaine manière,
entre
oui.
eux et Hachem dans cet événement?
Baruch, absolument. Absolument. Quand on expliquera demain, rappelez-moi demain de faire le lien avec cette histoire-là, quand on expliquera demain à un niveau beaucoup plus profond où sont les traces de la haine et qu'est-ce qu'elle signifie, c'est pour ça que j'ai expliqué aujourd'hui « Sheni Shoné ». Je vais commencer un petit peu le cours de demain.
Mais non, justement, mais
dès que je
comment sortir de ce fantasme de la haine des autres, c'est ça la question fondamentale.
Je vais t'expliquer. Dès que l'on est en présence d'un autre, on est en situation de haine. C'est quelque chose. Et voilà. Je mets mon doigt dans ce qui reste de café. J'ai le doigt mouillé. Je peux contrôler ça? Non. Je peux par contre après l'essuyer ou je peux ne pas mettre mon doigt si je veux pas qu'il soit mouillé. Mais une fois qu'il est dedans, c'est comme ça. Première réaction face à l'autre, haine. Après, commence tout le travail. Mais c'est haine. Pourquoi? Parce qu'il est chonné. Il est différent. La relation à la différence, tout de suite, crée un climat de chinouille et de sina. Chonné, chinouille.
C'est pour ça. Sina.
C'est chonné, chéni, chonné, sinouille.
Sina. Manuto,
comment?
Chonné ou bien manuto, pareil d'Afrique.
Oui, mais...
Mais tu as généré un signe.
Il y a une proximité dans la différence.
Il ne peut me déranger... Un instant. Il ne peut me déranger que parce que il est sur le même terrain que moi. Non, mais ce que vous dites est absolument prodigieux. Parce que c'est vrai qu'il y a une notion de chonné, il est différent, mais sa différence ne me dérange que sur mon terrain. L'artisan a naï que l'artisan qui fait le même boulot que lui. Ça veut dire, c'est justement, c'est ça qui est extraordinaire. Parce que il y a une base de ressemblance, comme disait Nathan tout à l'heure, on est à l'image de Dieu, comment peut-on le haïr? Justement, parce qu'il est bnei umanuto. On est sur un même terrain de compétence, et sur un même terrain de compétence, la différence me dérange. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a une ressemblance, et c'est pour ça, parce qu'il y a une ressemblance, que malgré tout, les points de différence me dérangent. Parce qu'il y a une différence, parce qu'il y a une ressemblance. Mais quelqu'un qui est complètement différent de moi, je ne le haïs pas. Donnons un exemple. Pourquoi un homme n'haït pas un animal? Parce qu'il n'y a aucune compétition possible. Aucune compétition possible.
Ça va très loin, parce qu'il y a une femme.
Comment?
Un homme n'est pas a priori une femme, c'est pas sur son terrain. Après, aujourd'hui, on voit que les femmes prennent le terrain des hommes et que...
Non, mais c'est les femmes et les hommes sont sur le même terrain au niveau du travail, au niveau de la société, au niveau de... Un instant. Au niveau de mille choses qui font qu'elles sont sur le même terrain. Et les peuples, c'est pareil, etc., etc. Ce qui est extraordinaire, c'est que comme Israël est la seule religion au monde qui est haïe par toutes les religions... Ça veut dire donc quoi? Que toutes les religions, consciemment ou non, se trouvent un point de liaison avec nous, d'après ce principe-là. On a ouvert ici le sujet à 150 000 doctorats. Ça veut dire que je ne peux haïr que celui qui est différent dans la ressemblance. Ça veut dire que, bon, je ne peux pas haïr quelqu'un qui n'a aucune ressemblance. C'est impossible. Il ne me dérange pas. L'avocat ne va jamais haïr un médecin. Pourquoi ? Parce que de toute façon, ça ne me dérange pas. À l'arrière, il haïra le médecin si le médecin réussit aussi bien que lui, et vient s'installer dans le même quartier que lui et achète une maison un peu plus belle que la sienne. Donc à nous, c'est la ressemblance qui va faire qu'il va y avoir une haine de la différence. Mais s'il n'y a pas du tout de ressemblance, il n'y aura pas de raison de haine.
Alors j'ai dernier mal à faire. Comment se fait comme Eze ou Gibor? Bah tu rends, on dit Eze ou Gibor, comme chez Kitzro. Ça, c'est le Gibor qui est défini par la Torah.
Oui.
Et ensuite, Sinat Chachamim Tarbe Chochma, on dit.
Non, Kinat Sofrim Tarbe Chochma. Non, le mot est différent. Kinat Sofrim Tarbe Chochma, la seule concurrence qui est positive, qui est censée l'être, c'est la concurrence entre les rabbanim dans le monde de la Torah. Il y a une halakha explicite, par exemple, bon, quand je dis halakha, une halakha en tant que enseignement de pensée juive. Je ne suis pas en train de faire du Shulchan Aruch, de vous dire la loi est que. C'est de la pensée. Mais très globalement, au niveau de la pensée juive, si j'ai un commerce et que tu viens t'installer juste en face de moi et que on peut prouver qu'apparemment il n'y a pas suffisamment de clients pour toi et moi, c'est un grand problème au niveau de la loi juive. La concurrence n'est pas permise d'une manière sauvage. Il faut faire attention. Mais le seul cas où non seulement c'est permis mais c'est encouragé, c'est si par exemple j'ai un centre d'études ici, d'accord ? N'importe qui peut s'installer en face de moi et ouvrir un centre d'études mais avec beaucoup plus de moyens que moi, etc. Je n'ai rien le droit de dire et au contraire, c'est encouragé. Kinat Sofrim, Marbe Chochma, parce qu'au contraire, plus il y a de centres d'études, et plus c'est Marbe Chochma, plus.
Alors pourquoi Kina c'est... Kina c'est négatif. Ah, c'est
non,
c'est
non,
pas...
non, Kina,
c'est
non, non, non,
c'est
pas, pas Kana Ilachem.
Non, El Kana, on parle, on est en hébreu biblique, on n'est pas en hébrite. En hébreu biblique, Kone veut dire émulation aussi. C'est un mot qui a plusieurs sens. Et donc il y a une émulation. Des fois le mot Kina veut dire jalousie, mais des fois veut dire émulation. El Kana, c'est pas comme malheureusement l'ont traduit tous les fous, un dieu jaloux.
Ils sont complètement fous. Non, El Kana, c'est le maître du monde à acheter.
Ok, donc vous-même vous êtes d'accord.
Kina, c'est avec Aleph.
Non, c'est le même mot. Non.
Mais pas du tout, c'est pas le même mot. C'est même pas les mêmes racines. Kina,
voilà, on va s'arrêter pour aujourd'hui.
Il y a une question à la fin de cours, peut-être vous aurez l'occasion de répondre demain. C'est comment sortir de ce fantasme de la haine de l'autre et arriver à un véritable amour divin et humain. C'est ça la vraie question.
Et c'est
au Nahon, absolument. C'est ça ce qu'on espère qu'on va pouvoir faire demain. Si on y arrive demain, on a la délivrance d'ici la fin du cours.
Amen.
Amen. Amen. Amen.